Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, le tome 34, le chapitre 386 de Mission Encre Noire qui commence. Médailles bénites enfouies dans le poêle encore humide, des barbituriques et des stupéfiants pour le calmer. Bandé comme un guerrier, les abats au cou, sa tendresse turbulente épuisée dans tes bras comme de la bière chaude. Tu m'auras appris l'abandon, l'élévation et le bas niveau de l'amour, le crime parfait. Dont il faut effacer les traces avant ma rupture d'avec les mots. Jouissant de peur, je me suis caché sous la lumière comme dans un crachat. J'ai forcé la démesure jusqu'au plus plat, mouillé tel un lac artificiel où l'eau tourne son dos, teinté d'essence au rayonnement des étoiles. Nous avons vaincu la nuit douloureusement. Accouché du jour, l'abrasion de ma bouche se souvient de tes baisers longs à mort. Serions-nous de ceux qui se foudroient ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de L'urine des forêts par Denis Vanier, paru en 2021, et qui illustre une présentation d'un festival de réédition que je vous invite à découvrir ce soir. Nat par Philippe Haeck, Sauterelle dans Jouet par Marcel Hébert et Les Lettres Otages par José Yvon. Tout cela paru aux Herbes Rouges. La récente réédition de ces trois livres n'est pas anodine, loin s'en faut. Rapidement, comme ça, j'y vois deux raisons et non des moindres. Dans notre société si consensuelle, lire ces textes fait encore et toujours figure de pavé dans la mare. Et, à plus d'un titre, l'influence de ces trois autrices se fait largement sentir sur la nouvelle génération des poètes actuels. La poésie de Denis Vanier est marquée par la présence de différents fluide, jouant à la fois un rôle purificateur et de rejet de soi. C'est un recueil publié en 1999. L'urine des forêts lui a valu le grand prix du livre de Montréal. Et dans cette nouvelle édition, Richard Suicide revisite les gravures réalisées par Gustave Doré pour l'Enfer de Dante. Est-il encore besoin de présenter ici La Fée des Étoiles, José Yvon? Les Laides Otages est d'abord paru aux éditions VLB en 1990. Ce roman débute par un bruit sourd, horrible, un corps qui tombe, des coups qui pleuvent, des femmes qui crient, qui s'engueulent. On entre par effraction dans un monde dément d'une Amérique mal emmanchée qui se fait prendre à revers par la plume rageuse au talent aussi fou qu'effrayant de la poète québécoise. Philippe Haeck, pour sa part, pourrait faire tâche aux côtés de ce duo plutôt agité. Pourtant, l'écrivain nous parle de luttes ouvrières et de femmes ou comment les convergences des intérêts et de révoltes peuvent se rassembler. La voix de Philippe Haeck se détache, elle aussi, de la langue cuite des institutions pour conquérir ce qu'il nomme sa langue natée. Cerise sur le Sunday, Sauterelle dans Jouet de Marcel Hébert s'ajoute à ma liste, un livre qui contient l'œuvre complète de Marcel Hébert qui a cofondé avec son frère François en 1968 la revue Les Herbes Rouges pour devenir les éditions du même nom en 1978. Pour vous donner le goût de vous immerger dans le flot de ces textes, j'invite ce soir à Mission Encre Noire, Roxane Desjardins. Bonsoir Roxane.
Bonsoir Eric.
Écrivaine, directrice générale des Herbes Rouges, vous êtes montréalaise. Après une maîtrise en création littéraire à l'Université du Québec à Montréal, vous poursuivez un doctorat en recherche création littéraire à l'Université de Montréal. Vous êtes l'autrice de deux recueils de poésie, Le Revers, paru en 2018, et Ciseaux en 2014, un récit en 2016, Moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire, et bien sûr la fameuse anthologie, La poésie des Herbes Rouges, en collaboration avec Jean-Simon Desrochers, paru en 2018. Ce n'est pas rien de prendre la suite des frères Hébert à la tête des Herbes Rouges. Si je vous demande, quelle ligne directrice habite ou habille encore fidèlement le choix éditorial depuis les années 80, ça donnerait quoi?
Les années 80 ou même la fin des années 60, je pense que les principes qui ont présidé à la création de la revue Les Herbes Rouges et de la maison d'édition du même nom sont encore les mêmes aujourd'hui. Alors, pour nous remettre un peu dans le bain, à la fin des années 60, on est en plein dans l'époque de la poésie du pays, une poésie qui ne se refuse pas un certain lyrisme, n'est-ce pas? Et qui est surtout, sur le plan politique, vraiment orienté vers une pensée nationaliste. Et les frères Hébert sont curieux de d'écriture qui serait plus audacieuse dans leur forme. Et c'est vraiment ça l'étincelle, je dirais. Ils cherchaient des voix singulières, ils en ont trouvé très rapidement. Entre le premier numéro de la revue où publie notamment Gaston Miron, et déjà quelques années plus tard, on accueille à la revue des Roger Desroches, André Roy, François Charon, éventuellement aussi plus tard, il y aura Normand Bellefeuille, Marcel Labine, France Théoret, Nicole Brossard. Et donc, ce sont des écrivains qui, souvent, ont commencé leur œuvre avec une poésie très, très étrange, très éclatée, qui questionnait la syntaxe, le rapport au sens. Dès les années 70, on est dans cette recherche d'une... ce sont des mots un peu galvaudés, je vais les utiliser quand même, là, modernité, avant-garde. Mm-hmm. J'ai envie, en fait... François Hébert, le patriarche, n'est-ce pas, est décédé en décembre dernier, et j'ai fouillé dans nos dossiers pour trouver quelques archives éclairantes. Histoire de bien marquer le passage, parce que on était déjà en transition, mais le départ de François Hébert signe la fin de notre collaboration et le début de cette nouvelle époque. Et j'ai trouvé quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, c'est le communiqué pour les 20 ans des Herbes Rouges, donc 1988. Et voici comment les Herbes Rouges sont décrites. Les Herbes Rouges, plus que jamais, demeurent un lieu privilégié de recherche et d'expérimentation, une référence indispensable à qui s'intéresse à l'avenir de la littérature au présent. Alors, cette approche du texte par la forme, c'est ce qui détermine encore aujourd'hui nos choix éditoriaux. Et j'aime beaucoup cette idée de l'avenir de la littérature au présent. Donc, il y a quelque chose d'exploratoire, c'est certain.
Alors, il y a une belle brochette de textes qui nous attend pour ces prochaines minutes et pour la lecture des auditeurs et des auditrices cet été, pourquoi pas. Alors, la question qui brûle, puisque tu reviens en arrière, mais pointant un doigt vers l'avenir, la question qui brûle toutes les lèvres, pourquoi justement rééditer autant d'œuvres? Y a-t-il autant d'œuvres du passé qui ont autant de pertinence encore aujourd'hui, ou y a-t-il un souci de mémoire au-delà du fait que ce soit des œuvres qui sont encore d'actualité aujourd'hui?
Effectivement, ce sont deux aspects importants qui motivent les rééditions. La réédition fait depuis longtemps partie des Herbes Rouges. C'est normal avec un catalogue avec juste une telle durée dans le temps. Mm-hmm. Et une des choses qui caractérise les Herbes Rouges, c'est à la fois un engagement sur la durée entre les auteurs et la maison d'édition. C'est-à-dire que nous, on cherche à publier toute une œuvre. On cherche à développer, à grandir avec les auteurs-autrices. Et on a donc, c'est logique, aussi un engagement à maintenir leurs œuvres vivantes. Et en ce sens, que ce soit parce que, comme tu le mentionnais, avec les lettres d'otage, il y a quelque chose d'encore très très vif, très très nouveau, en fait, quand on lit José Yvon aujourd'hui, ou par exemple avec Nat de Philippe Heck, dont les enjeux politiques inspirés du marxisme sont plus formulés dans les mêmes mots dans l'actualité aujourd'hui. Alors que ce soit parce que c'est comme d'une actualité brûlante selon certains, ou parce qu'il y a justement dans le propos un intérêt historique, c'est deux aspects qui sont un peu les deux revers d'une médaille, au sens où 2022 n'est pas arrivé de nulle part. Et pour nous, il y a ce sens de la continuité et aussi de savoir d'où on vient. C'est ça. C'est ça la raison pour laquelle on republie toutes ces œuvres. Et là, dans le fond, on parle de Denis Vanier, José Yvon, ce sont des rééditions d'œuvres qui étaient épuisées ou presque épuisées, donc plus disponibles depuis un certain temps. Ça, c'est une raison qui peut nous motiver à faire des rééditions parce qu'on souhaite que les livres restent disponibles. Et Philippe Heck, Nat et Marcel Hébert, Sauterelle d'Anjouet, on voit avec les couvertures, c'est une autre collection. C'est la collection Enthousiasme qui a été fondée dès le début des Herbes Rouges, en fait, pour conserver ce qui pouvait tomber dans l'oubli, notamment parce que beaucoup des textes importants aux Herbes Rouges ont été publiés sous la forme de numéros de revues, qui sont évidemment, ben certains ont été épuisés au fil du temps. Et puis, il y a quand même une pérennité de la forme livre. Donc, dans la collection Enthousiasme, on a pour mission de publier des textes qui ont été importants, même s'ils ne sont pas nécessairement épuisés. Et on est dans une logique d'œuvre complète ou de partie substantielle d'une œuvre. Dans le cas de ces textes, c'est ces poèmes de 71 à 77. Et ces textes sont toujours présentés par une préface qui est écrite par une personne de notre génération. Donc, quelqu'un qui est plus jeune que l'auteur à l'origine, Philippe Heck est toujours en vie. Évidemment, son œuvre a évolué depuis les années 70. Et la personne qui en parle, je te précède un peu, mais c'est Laurence Ouellette Tremblay, qui est une écrivaine et professeure d'université à McGill depuis 2018. Dans le cas de Marcel Hébert, c'est Frédéric Dumont. Donc, dans les deux cas, des personnes dans la trentaine qui n'existaient même pas quand ces premiers textes ont été écrits.
Alors, en fait, moi, ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est ni plus ni moins d'explorer rapidement ces rééditions pour fournir quelques clés nécessaires à la découverte de ces œuvres incontournables, jugées parfois, dit-on, compliquées, cryptiques. Alors, quelle approche faut-il adopter lorsqu'on approche de tels textes? Mais je dirais en général, finalement, pas simplement cette poésie, mais on va dire la lecture de poésie, je voudrais dire tout simplement.
Quelle grande question qu'on se repose souvent. J'aime bien proposer, en fait, j'aime bien reprendre une phrase de Marcel Hébert. Donc, il avait dit à sa sœur, qui lui disait « Je ne comprends rien à tes poèmes ». Il lui avait dit « T'as pas besoin de comprendre, t'as juste besoin de les lire. » Alors, c'est un peu la spécialité des frères Hébert de dire des choses assez complexes de façon à les faire apparaître extrêmement simples, mais en réalité, la meilleure façon de lire ces textes, c'est de leur permettre d'être aussi étonnants qu'ils sont et d'accepter qu'ils sont en train de travailler, notamment le sens. C'est-à-dire que c'est des textes qui n'ont pas pour mission de communiquer un message. Ce sont des textes avec qui sont au maximum de ce qu'un texte peut être. C'est-à-dire, à la fois, on peut considérer la forme, mais on peut aussi... En fait, c'est une expérience qui est proposée. C'est une expérience de lecture qui va être déconcertante, qui va peut-être aussi créer des connexions parce qu'on... Dans la vie, on réfléchit beaucoup par métaphore. Alors là, en poésie, on utilise des images, on fait des déplacements, et on semble dire quelque chose, mais en fait, la phrase n'a pas de sens. Et toutes ces possibilités qui ont lieu dans la poésie ne font que peut-être attirer notre attention sur tous ces aspects qui, pour lesquels, dans la vie courante, avec le langage, on fait des raccourcis, en fait. Donc, j'ai envie de répondre, comment lit-on ces textes? Avec curiosité. En ouvrant l'œil pour trouver ce qui nous accroche, ce qui est, on cherche dans ces textes, chaque personne, je pense, va retrouver quelque chose d'un peu familier. Et c'est ce familier qui nous permet de nous ouvrir à ce qui nous étonne. Et c'est cette expérience d'ouverture-là que proposent ces différents textes dont on parle aujourd'hui.
Alors, allons explorer un petit peu ce côté familier dans ces textes que proposent les éditions Herbe Rouge à lire ce printemps et cet été. Alors, ce qui frappe d'emblée, c'est la pertinence du propos de chacun et chacune. Denis Vanier, pour commencer, puisque j'en ai lu un extrait. L'urine des forêts, c'est son avant-dernier livre. Une écriture volcanique, un hymne à la mutation du corps et à sa destruction violente à la fois. On est entre martyr et rédemption. Et ce sont surtout, puisque les Herbes Rouges ont l'habitude de travailler les formes des livres, comme tu le disais tout à l'heure, ce sont des poèmes qui sont illustrés par Richard Suicide. Alors, puisqu'il s'agit aussi d'une réédition, hein, une réédition de 1999. Denis Vanier est moins cité que sa compagne ou ex-compagne José Yvon ces dernières années. Alors, que représente l'urine des forêts dans son œuvre? Et parle-nous aussi un petit peu de cette forme. Pourquoi le choix de Richard Suicide?
Alors, l'urine des forêts fait partie d'une série de livres, en fait, que Vanier a écrit dans la dernière décennie de sa vie, qui ont tous été publiés aux Herbes Rouges. Tous ces livres, donc je cite quelques autres titres, il y a « Tu me trompes avec un oiseau »,« Porter plainte aux criminels »,« Le baptême de Judas »,« Le fond du désir »,« Renier son sang ». Et alors c'est une publication très régulière, presque un livre par année. Ce sont tous des livres qui étaient illustrés aussi. Et bon, Vanier avait eu un début de carrière assez explosif, très politique aussi, avec ses livres comme « Lesbienne d'acide », comme « La peau d'un rosaire ». Et à la fin de sa vie, on voit que il y a peut-être un moins grand désir d'aborder des réalités de la vie américaine. Je ne sais pas si les auditeurs se souviennent qu'à la nuit de la poésie 70, dans le texte de Denis Vanier, il s'exclamait à un moment donné « Kraft fuck the cheese ». Alors ça, c'est le Vanier de début de carrière. À la fin de sa carrière, on sent qu'il n'a plus besoin de ses noms propres, de ses références, et il est plutôt dans une démarche, comme tu le disais bien, par rapport à la destruction du corps. En fait, on voit aussi... on peut comparer les photos de jeune Vanier et de Vanier derrière l'urine des forêts. On voit que son corps s'est dégradé, en fait. C'est quelqu'un qui était très tatoué. Puis quand il était jeune, il était tout mince. Et là, il a les yeux tombants. Il a l'air abîmé, en fait. Et là, c'est un livre qui parle beaucoup de maladies. Et qui a aussi un retour assez particulier, j'ai envie de dire exceptionnel. Tu dis le mot rédemption, mais c'est vrai qu'il y a un vocabulaire religieux qui est assez particulier parce que, je sais pas si c'est bien dans le rythme des forêts, qu'il y a une des sections qui s'appelle « En prison, on chie devant tout le monde ». Oui. Oui, c'est dans le rythme des forêts. En prison, on chie devant tout le monde. Alors, il y avait un clash dans l'édition originale de l'urine des forêts, un clash qui était tout à fait voulu par Vanier, entre ces textes, avec ce vocabulaire du corps assez décadent, et les gravures de Gustave Doré, qui, elles, ont une tonalité un peu plus lyrique, des corps tordus par la douleur, mais de façon très jolie. C'est beau, les gravures de Gustave Doré pour l'Enfer de Dante. Et en préparant la réédition, en fait, c'est notre directeur artistique, Vincent Giard, qui m'a dit « Ok, mais Gustave Doré, là, c'est du domaine public, je comprends qu'il a utilisé ça, mais peut-être qu'on pourrait enrichir et donner une qualité particulière à cette réédition en allant chercher Richard Suicide, dont l'univers visuel a beaucoup de points en commun avec le vocabulaire de Denis Vanier à l'époque. » Alors, Richard Suicide, dans les années 90, il était en tout début de carrière. On le connaît aujourd'hui pour ses bandes dessinées, notamment Chronique de Centre-Sud. Centre-Sud, c'est également le quartier où a vécu Vanier toute sa vie. Mm-hmm. Et en fait, au fil du travail avec Richard Suicide, qui a accepté avec beaucoup de plaisir de se prêter à cet exercice, de revisiter. Donc, ce sont les mêmes... ce sont pas les mêmes images, mais ce sont des représentations semblables. L'idée était vraiment de reprendre ou de dialoguer avec les œuvres de Gustave Doré. Et on a appris, en fait, au fil du travail avec lui, que Richard avait, avait déjà eu un projet qui s'est jamais concrétisé de bande dessinée avec Vanny. Donc, c'était aussi comme une sorte de réparation d'une histoire qui n'a jamais eu lieu pour nous de travailler avec Richard. Et ben sous sa plume ou sous son crayon, les personnages deviennent des espèces de Elvis de bas étage et le décor se garnit de bouteilles vides qu'on appelle aussi des corps morts, n'est-ce pas? Et de feux de voiture, là, de feux de pneus. C'est un décor assez... C'est sûr qu'il y a un côté un peu plus humoristique à ces dessins-là. C'est une chose qui, que certaines personnes dont certaines personnes ont pu s'étonner. Je pense en fait qu'il y a quelque chose du ton de Richard Suicide et de celui de Vanny dans ces textes-là qui dialoguent très bien, en fait.
Quand une femme nous quitte, c'est toute la marijuana qui meurt. C'est un extrait de « Un jour nous ne verrons plus » qui est dédicacé à José Yvon. Ouais. Alors, il y a beaucoup de fureur dans son écriture. Alors la question, c'est peut-elle encore aujourd'hui avoir un impact sur les jeunes générations, à ton avis? N'est-ce pas aussi que ces écrivains, c'est un peu comme les rockstars, comme les popstars, ces écrivains morts ou mortes restent quelque part figés dans le temps, comme à la fois présents dans le texte, dans l'impact des textes, on parle de poésie trash et des choses comme ça, mais ils sont absents. N'y a-t-il pas une forme d'incompréhension malgré tout? Yvon et Vanier restent quand même des personnages autodestructeurs dans leur vie personnelle. Que signifie encore cette révolte ou leur révolte? Parle-t-elle encore aujourd'hui à ton avis?
Mais il y a deux choses dans la question que tu poses. Premièrement, Vanier et Yvon se sont tous les deux beaucoup mis en scène dans leur vie littéraire, notamment publiant des photos d'eux-mêmes dans leurs livres. Et cet aspect qui fait d'eux un peu des rockstars, c'est à la fois un phénomène littéraire très intéressant et je pense pas que ça envahit la totalité de leurs œuvres. Mon approche à moi comme éditrice, c'est plutôt de voir que dans leur écriture, dans leur texte, il y a quelque chose à apprendre. Mm-hmm. Et chaque personne fait son parcours comme elle le... Chaque personne fait son parcours, chaque écrivain, écrivaine, chaque lecteur, lectrice, on lit des œuvres plus récentes, des œuvres plus anciennes, des œuvres étrangères, des œuvres de nos compatriotes. Alors, est-ce que la révolte est encore pertinente? J'ai envie de dire, pour certaines personnes, assurément oui. Pour d'autres, l'intérêt de lire Vanny, ce seront plutôt ces images. Évidemment qu'il y a un côté... il y a un vocabulaire très... un vocabulaire assez dépérissement, amour perdu. C'est plein de mort et de décrépitude. Mais ce sont également... des poèmes qui travaillent avec l'image. Puis l'image, on n'a pas terminé de travailler avec seule image en poésie.
Alors, nous en avons déjà parlé ensemble dans une autre émission au sujet de José Yvon, justement. Parlant d'écorcher vive, j'enchaîne avec ce roman, cette réédition, Les Lettres Otages, qui est paru en 1990 chez VLB. Alors, c'est un drôle d'objet quand même. Je dis quand même parce qu'on retrouve en fait des choses qu'on trouve déjà dans sa poésie. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est encore plus brutal encore, puisque comme je le disais en introduction, ce livre s'ouvre quasiment sur une décapitation. Alors, qui sont ces Lettres Otages? Quel est ce roman un peu particulier?
Les Lettres Otages, c'est un roman, mais tu n'as absolument pas tort de dire qu'on retrouve parfois même les vers de José Yvon. C'est un roman qui est écrit partiellement en vers et partiellement en prose. Il y a des images... comme dans tous ses livres précédents. Mais c'est vraiment quelqu'un qui travaille la fiction et on voit qu'au fil de sa carrière, donc là, on est rendu en 90, José Yvon va décéder en 94, c'est son avant-dernier livre, Les Lettres Otages. Et pour ce livre, elle a créé un lieu qui n'est jamais vraiment nommé. En fait, les personnages dans le livre vont se demander elles-mêmes est-ce que c'est une prison, un hôpital ou un bordel? Toujours est-il que les Lettres Otages y sont rassemblées. Ce qui crée une sorte de dedans par opposition au dehors où leurs vies se sont déroulées jusqu'à ce qu'elles y arrivent. Donc, dans ce lieu où elles vivent, où elles se battent, où elles écoutent la télé, où elles font la fête, où elles font des arrangements, des plates-bandes, elles sont surveillées par une grosse dame qui est au-dessus d'elles et qui s'appelle Tétra. Mm-hmm. Et qui leur envoie ce dont elles ont besoin. Ou évidemment, il y a de la drogue et de l'alcool, mais aussi de la nourriture, éventuellement aussi des animaux. Et c'est ce dispositif, en fait, qui permet à José Yvon de continuer ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire d'écrire des destins très singuliers de personnes qui sont très marginalisées dans la société. Donc, comme c'est fréquent dans ses livres, il y a beaucoup d'histoires de violences sexuelles misogynes. Il y a des personnages trans, des personnages aussi homosexuels. Et en fait, c'est les lettres d'otage. C'est un féminin qui est très queer, très englobant, très généreux, en fait. Et c'est sûr que la violence est une partie essentielle de l'expérience de la vie de ces personnages. Donc, violence subie, violence réalisée aussi, parce qu'on voit chez José Yvon que souvent, une des réponses fréquentes à la violence, c'est plus de violence. Mm-hmm. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là, dans cette unité de lieu et de temps, qu'on va retrouver les personnages avec des petits des flashbacks, en fait, dans leur vie de personnes pauvres, de personnes de travailleuses du sexe. Comment elles ont vécu et eu de la difficulté à vivre jusqu'à ce qu'elles se retrouvent là où ce n'est pas parfait non plus. Est-ce un hôpital ou une prison? C'est quand même une grosse question à se poser. Mm-hmm. Mais c'est un super dispositif, en fait. Et en fait, on a pris une décision éditoriale par rapport à ce livre qui, à l'origine, était publié sous l'étiquette « Récit ». Et à la lecture, il nous est apparu tellement clair que c'était en fait vraiment un roman.
Ce livre est magnifique. La couverture est exceptionnelle. La couleur, le choix de la photo, le choix du sujet. Et aussi, ce que vous aviez fait par le passé, je dirais, l'intérieur du livre, on retrouve beaucoup d'illustrations, des photos en noir et blanc. Et sont-elles d'origine, d'ailleurs, ces photos? On a des portraits, on a Absolument. Des dessins. C'est magnifique. C'est un ouvrage incroyable. Mais aussi, la forme du texte, il y a quand même différentes typographies qui sont utilisées. Il y en a qui font penser parfois à de la publicité quasiment, qui sont introduites dans le texte. Y a-t-il une grosse discussion autour de cette mise en page de cet ouvrage en particulier?
Alors, ça fait partie de notre engagement dans les rééditions, autant pour Yvon que pour Vanny, d'ailleurs, de reprendre au maximum les images qui avaient été choisies parce que elles font à nos yeux vraiment partie du livre, tel que pensé par José Yvon dans ce cas-ci. Alors, il y a effectivement toujours eu, jusqu'à maintenant, des images dans les rééditions des livres de José Yvon. Donc, on parle de Travesti Kamikaze, Maîtresse Cherokee, Danseuse Mamelouk. Ce sont les images d'origine que nous avons tantôt récupérées dans les archives de José Yvon, tantôt simplement récupérées dans l'édition. Là, il y a des images qui sont en meilleur état que d'autres. José Yvon faisait du collage, elle récupérait un peu partout des images et elle mettait ça dans ses livres. Donc, on essaie de reproduire cette espèce de baroque. Il y a aussi, dans tous ses livres, des photos d'une photographe américaine très importante pour José Yvon qui s'appelle Suzanne Mezella, qui a, au début de sa carrière, dans les années 70, si je ne me trompe pas, suivi des troupes de femmes qui faisaient du striptease dans les fêtes foraines. Donc, son projet s'appelle Carnival Strippers et il y a des extraits de la série Carnival Strippers dans plusieurs livres de José Yvon. Ces photos-là sont identifiées, d'ailleurs, elles sont extraordinaires. Ça représente souvent, justement, ces femmes-là dans leur pause, entre leur moment de travail sur scène. Et pour la couverture, pour cette fois-ci, je suis vraiment contente que ça te relève. On a décidé de ne pas reprendre l'image d'origine et de plutôt aller vers un photographe queer contemporain montréalais qui s'appelle Laurence Philomène, qui est un artiste qui travaille exactement un rapport au genre qui est aussi très baroque, un peu surchargé. Souvent, les personnages dans les photos de Laurence Philomène vont multiplier les éléments d'expression de genre variés. Laurence Philomène travaille également beaucoup avec l'autoportrait. Elle vient de publier un livre qui s'appelle Puberty, où on voit sa transition des personnes assignées femmes à la naissance et qui prend de la testostérone. Donc, on voit les poils apparaître sur son corps et son corps changer au fil des années. Et en fait, c'est pas Laurence Lemaine qu'on voit sur cette photo, c'est une photographe américaine qui s'appelle Hobbs Ginsburg. Et je dis une photographe, mais évidemment que les tatouages, le maquillage, les piercings, la robe de mariée ouverte sur une poitrine nue, ça attire beaucoup l'attention. Mais pour nous, il y avait quelque chose de tellement cohérent avec l'approche que José Yvon a du genre, et là, je veux dire du gender, d'avoir en couverture cette image tellement frontale, mais qui montre un corps féminin qui n'est pas tel qu'ils sont habituellement représentés. Donc, on est vraiment très content d'avoir eu la chance de travailler avec cette extraordinaire photographe. D'ailleurs, les photos de Hobbs Ginsburg valent aussi vraiment la peine d'être consultées. Je pense que c'est un univers aux couleurs très saturées qui peut bien accompagner en fait une plongée dans l'œuvre de José Yvon.
Qui s'élève en ton ventre lorsque tu t'écoutes. Ce sont des rumeurs de combat, des ronflements de dormeurs, des cris de bêtes, le bruit de tout un univers, de toute une terre enfouie si loin, si longtemps. Ce n'est pas assez de vouloir être libre, il est aussi nécessaire de savoir être libre. Le simple vouloir ne déplace pas les montagnes. L'air vif vibre, la surface de la mer se tend comme pour le passage d'un enfant. Dans la nuit, la chambre est un œil clair, calme, tout entier traversé de la tempête lumineuse. Chaque secousse du vent soulève les chaises laissées sur la galerie. Je sors pour aller sentir la mer, la regarder se déchaîner, se briser. L'esprit n'est plus le même d'être traversé par tant de force. Je rêve à un enseignement qui donne envie de transformer la société. Alors, ceci est un extrait de Nat. Alors, il s'agit d'un texte poétique des années 1971 à 1977. Philippe Haec est un poète et essayiste québécois montréalais né en 1946. Comme tu le précisais tout à l'heure, la préface est signée par Laurence Ouellet Tremblay. La poésie et la révolution passent par les femmes, note justement Laurence Ouellet, dans l'écriture du poète. Ce recueil, qui se compose de « Les grandes lèvres »,« Nat », »,« Tout va bien »,« Les dents volent » et « Car tendresse ». Alors ce recueil peut être lu presque comme un exercice initiatique, puisque en préambule, il est précisé que l'auteur se met à l'écoute active de l'univers, du féminin, du monde intérieur et d'un appel à la révolte, mais dans la version marxiste, tu en parlais tout à l'heure, marxiste du terme d'ailleurs. C'était quand même assez rare de nos jours de dire ce terme, d'employer ce terme quand il s'agit de militants ou de militantisme. Est-ce que ça donne une couleur vraiment particulière à la lecture de ce recueil?
Absolument. Le marxisme était d'actualité au moment où ces textes ont été écrits. Je pense que ce que Philippe Haec, il prend, outre des mots qu'on a plus l'habitude de voir comme ouvrier, par exemple, c'est un souci de voir... C'est un souci d'équité, un souci de soutenir les personnes les plus vulnérables et un souci aussi de se mettre, comme tu le disais, à l'écoute des relations. L'écriture de Philippe Haec se se développe au fil de ses poèmes qui ont été restitués au complet. Donc, il y a un peu de tout dans ce livre. Mais je pense que le marxisme, oui, on peut lire le livre d'un angle historique en remarquant les traces du vocabulaire marxiste, mais on peut aussi voir, on peut aussi passer un peu outre le mot ouvrier parce qu'on a l'équivalent, en fait, aujourd'hui, quand on considère les inégalités sociales, c'est encore un sujet d'actualité, même si le marxisme en soi ne l'est plus.
Alors, il dit, par exemple, « libérer l'avenir de ce qui, aujourd'hui, le défigure ». Alors, cet engagement militant le porte jusque dans les années 80. C'est un militantisme presque, j'ai envie de dire, joyeux, fait de jouissance. Les corps se caressent, se frôlent. Ces corps à corps sont révolutionnaires dans l'ensemble du recueil. Il y a comme une ivresse qui s'empare des textes. Je cite, il dit « la loi du père ne tient pas devant leur chant ». Alors, le chant des femmes, bien entendu. Il dit encore « la poésie n'a rien à voir avec des chants plus ou moins heureusement rimés ou rythmés qui flattent les choses et les êtres bien en place et les laissent à leur place ». Ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur la poésie en général, comment lire, comment approcher ces textes. En tout cas, ces propos gardent encore leur piquant aujourd'hui, puisque Philippe Haeck bouscule notre société aseptisée. Ce recueil est troublant d'intensité, mais j'ai envie de te demander où se situe-t-il au regard du théâtre de la cruauté et des excès dont on a parlé tout à l'heure concernant Denis Vanier et José Yvon, à ton avis?
C'est une très grande question.
Ah oui!
Où se situe-t-il? Je pense que du point de vue de ces auteurs, ils ont assez peu en commun. Dans ma perspective de lectrice et d'éditrice, Philippe qui partage avec José Yvon et Denis Vanier une curiosité pour tout ce qui n'est pas dit dans le discours, je vais utiliser le mot mainstream. ce sont dans les deux cas, dans les trois cas, des textes qui sont politiques par leur nature, curieuse, ouverte. Ils sont pas ouverts au même phénomène, mais l'ouverture est quand même présente chez ces trois auteurs.
Mais il y a peut-être aussi un écueil à éviter dans la lecture. Moi, c'est ce qui m'a un peu, je dirais, pas démobilisé ni dérangé, mais rendu un petit peu inconfortable. C'est un peu la lecture au tout début, l'approche de l'auteur par rapport à l'inconnu féminin. On sent que ces premières années marquent une forme d'inquiétude. On sent la tourmente du jeune écrivain face au sexe de la femme. C'est pas un sujet nouveau, tu me diras, je suis d'accord. Or, tout change, notamment grâce, on sent, aux influences d'autres autrices et auteurs qu'ils découvrent, d'autres lectures, mais également la rencontre de Pâques. Alors, tu vas nous dire qui est Pâques et de quoi sont faites justement ces tresses tout au long des différentes époques qui sont très visibles. On voit bien la démarcation directement dans le recueil. Un changement de paradigme se produit à un moment donné dans ces poèmes.
Alors, c'est sûr qu'au début de sa carrière, en 71, j'ai nommé au début de notre conversation quelques-uns des poètes, Roger Desroches, Marcel Labine, Normand Bellefeuille, je peux aussi nommer Corriveau. C'était le féminin et la sexualité étaient hyper présents dans ses œuvres d'hommes et il y avait une exaltation du désir qui on peut trouver aujourd'hui, qui a un peu mal vieilli.
C'est ça.
Et c'est d'ailleurs ce que remarque Laurence Ouellette Tremblay dans sa préface. Elle a décidé de consacrer sa préface à cet angle de l'apprentissage. D'ailleurs, je vais te dire comme si c'est peut-être éclairant. Ça avait déjà été publié, cette somme de textes, sous le titre « Polyphonie, roman d'apprentissage ». Alors, c'est un peu le jeu de Philippe Haeck avec les gens littéraires, mais au-delà de ça, la notion d'apprentissage, elle est absolument pas déniée. Et en fait, l'apprentissage est très valorisé par Philippe Haeck, qui a été professeur toute sa vie. Et dans cet apprentissage, évidemment que à un moment donné, il y a des morceaux qui se placent et on sent qu'il y a une compréhension des enjeux féministes ne seront pas nommés avec ce mot-là, mais c'est ça quand même, les enjeux notamment dans la représentation des femmes et les droits des femmes et marxistes. C'est-à-dire Philippe qui va finir par lier ces deux questions, l'absence d'intérêt du marxisme pour les femmes, c'est une chose qui a été relevée. D'ailleurs, j'ai envie d'en profiter pour recommander le très intéressant petit essai de Valérie Lefebvre-Fauché, Promenade sur Marx, mm-hmm. qui parle justement des femmes autour de Marx. Et donc, pour revenir à Pâques, il y a Pâques qui est un personnage dans plusieurs livres de Philippe, c'est son amoureuse. Et progressivement, plutôt que d'être ce jeune homme torturé devant sa peur et sa fascination pour le sexe féminin, il va entrer en relation avec une femme qui est singulière, mais qui va aussi l'éveiller à des enjeux qui dépassent les aspects de sa propre personnalité. Et c'est là, je pense, j'ai envie de là, j'ai pas de citation à portée de la main, mais oui, je l'ai peu à peu. Mon corps se couvre de féminin. C'est une phrase qui revient deux fois, je pense, dans Nat. Et l'écrivain va se mettre à voir le féminin en lui aussi, s'éveiller à la nuance. Et ça, je pense que ça va me permettre de faire le pont vers la Nat. Cette réédition s'appelle Nat parce que pour Philippe, c'est central que son écriture est un tressage de plusieurs discours. Alors, on peut penser à au premier penseur de l'intertextualité qui disait « Tout texte est un tissu d'autres textes ». C'est vraiment l'approche de Philippe, en fait, de faire cohabiter les paroles et les voix à l'intérieur de sa propre parole qu'il appelle « verte ». Alors, il y a quelque chose de tressé. Il y a aussi une idée de la jeune pousse qui reste une jeune pousse pour toujours. C'est quelque chose de végétal dans la cohabitation de toutes sortes d'influences et qui nous constituent, en fait, c'est-à-dire...
Parce que Roger Desroches, Lucien Francoeur, Huguette Gollin, François Hébert, Gaston Miron, Ginette No, Patrick Straram, François Tourigny. Ça, c'est un extrait de Sauterelle dans Jouet de Marcel Hébert. Alors, s'agissant de bousculer l'ordre des choses... Cette anthologie des textes de Marcel Hébert, car il s'agit d'une anthologie, ben, tombe à point. Elle réunit des écrits de 1972 à 2007. Alors, est-ce que tu as eu la chance de le côtoyer, Marcel Hébert? Et si oui, j'imagine, même sans le rencontrer, il dégageait une certaine aura. Lui qui a fait peu d'études, c'est un autodidacte, amoureux fou de littérature, et qui va y consacrer sa vie entière. Est-ce que cette rencontre, je dirais, soit livresque, soit en personne, bah finalement, t'as tellement fasciné qu'elle a exercé une influence sur l'écrivaine que tu es devenue, et voire, effectivement, c'est logique, l'éditrice que tu es désormais aux Herbes Rouges?
Absolument. J'ai pas eu la chance de connaître Marcel Hébert. En fait, il est décédé en 2007 en laissant un projet inachevé que j'ai découvert l'année dernière en préparant cette réédition. Ce qui fait que j'ai connu Marcel Hébert en 2007, juste pour nous situer. Là, moi, j'avais genre 16 ans. Donc non, j'ai pas eu la chance de le connaître. Par contre, évidemment, je l'ai lu. J'ai lu des entrevues aussi qu'il a données et j'ai connu son frère. François et Marcel Hébert étaient, c'était eux, les Herbes Rouges, ils étaient un tandem assez indissociable. Et donc, j'ai connu sa pensée, j'ai connu son influence de plein de façons. J'ai connu aussi, j'ai entendu plein de témoignages des plus anciens auteurs et autrices des Herbes Rouges qui ont eu la chance de le connaître. Mais pour moi, c'est une découverte formidable parce que bon, je sais que Marcel n'est pas le seul éditeur à avoir également écrit, mais c'est, bon, on dit que c'est son œuvre complète, hein, 72-2007. C'est un livre qui fait même pas 100 pages, tout petit. Et je trouve, moi, je lis dans ses livres autant une liberté absolument fascinante au début et progressivement le travail d'édition qui gruge sur la capacité d'écrire. Et c'est triste, mais c'est aussi... Il y a un des trois textes qui sont repris dans ce livre qui s'appelle « L'homme qui regardait passer les livres ». Je trouve que ça en dit assez long sur... ça nous permet d'imaginer un Marcel Hébert en poète qui a du mal à écrire parce qu'il regarde passer les livres, n'est-ce pas?
Ouais, mais ironie du sort et du calendrier de publication, tu choisis Frédéric Dumont pour tenir la préface de l'anthologie. Ce n'est pas un choix par hasard, bien évidemment. Pourquoi ce choix?
Je n'aurais pas pensé à Frédéric. Bon, d'abord, il faut dire que Frédéric Dumont, c'est un poète que j'ai connu alors qu'il était à l'Écrou, la défunte Écrou que je salue aujourd'hui, qui était la maison d'édition dirigée par Carl Bessette et Jean-Sébastien Larouche. Et dans le fond, Frédéric s'est joué aux Herbes Rouges après que l'Écrou a annoncé leur fermeture. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler un peu plus de proche avec Frédéric, que j'avais seulement lu en livre auparavant. Et simultanément, donc, je travaille à cette nouvelle édition de l'œuvre complète de Marcel Hébert, y compris les fameux inédits. Et quand j'ai lu les inédits, en fait, je les ai carrément transcrits pour le livre. J'ai été vraiment saisie. Je me suis dit, mon Dieu, mais ça ressemble. Il y a des mots en commun avec ce Frédéric. Il y a un rapport au vocabulaire, un vocabulaire assez, assez épuré. Plutôt nu même, j'ai envie de dire, et tout un rapport à l'enfermement, ou un clash entre le dedans et le dehors. Et en fait, c'est raconté dans la préface, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Frédéric, puis j'ai dit, bon, est-ce que tu es assis, je vais te lire des poèmes. J'ai lu, moi c'est ce qui m'est arrivé. On était tous les deux un peu saisis, on comprenait pas, et là j'ai appris ensuite que Frédéric, en fait, n'avait jamais rien lu de Marcel. Donc son premier contact, ça a été ma lecture à haute voix. Et là, bon, je sais que... Est-ce que je peux en lire un?
Ah, vas-y, je t'en prie, vas-y.
Moi, c'est ce qui m'est arrivé. La chambre était maintenant plus maigre, quasiment anorexique. Je payais une vieille pour qu'elle me touche, alors je devenais petit. Je n'avais plus de montre. Et ça, c'est de la prose, c'est une syntaxe normale et ça dit quelque chose dans une logique qui nous échappe complètement, mais une chambre qui rétrécit, alors il faut imaginer, je reçois ça et en même temps, à peu près en même temps, j'ai reçu le manuscrit de Frédéric dont le titre est « Chambre minimum mm-hmm. ». C'est quand même une coïncidence assez fabuleuse.
Non, ben la coïncidence va même plus loin parce qu'en fait, dans cette préface qui est à la fois éclairante pour aborder les poèmes de Marcel Hébert, éclaire aussi la lecture de son propre recueil, Chambre minimum, mais également ses recueils, pourquoi pas, précédents. On ressent une certaine ironie en commun, la joie du jeu avec les mots. On retrouve un saisissement instantané à la lecture même des poèmes, à la fois dans les moments les plus, lumineux, ou comme dans les moments les plus sombres ou les plus graves de leur poésie. Frédéric parle de l'importance de la forme du texte, comme tu le disais tout à l'heure, lisible et illisible, à la fois proche et lointain, c'est ce que tu soulignais. Mais comment approcher ces textes de Marcel? Quelles sont les clés? Je cite par exemple « La volière est un oiseau de milliards de têtes » ou encore « Elle s'absente, je l'aime comme quatre parapluies ». L'aime est au pluriel. Étonnant, non?
C'est très étonnant. C'est très mystérieux. Il n'y a pas de clé pour ses premiers poèmes dans son trait d'Anjouet. D'ailleurs, écrit 72 parce que le petit livre sur trait d'Anjouet a été terminé en 72, mais il y a de ces poèmes-là qui ont été publiés dès le numéro 2 de la revue Les Herbes Rouges. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit se trouvait notre Marcel Hébert en 69 en écrivant ses poèmes. Mais ce que je lis, moi, c'est un appel à une espèce de curiosité maximale. La volière est un oiseau de milliards de têtes. C'est une image irréductible. On peut pas le formuler autrement. C'est une bonne image. Il faut se le dire. C'est une extraordinaire image. Comme ça fonctionne. On se l'imagine. D'ailleurs, on a utilisé ce poème d'un seul, de deux vers, un vers, comme titre à un spectacle qui a été fait avec le CIL, le Festival international de la littérature, pour les 50 ans des Herbes Rouges. Un truc qui a résumé assez bien l'oiseau de milliards de têtes, cette drôle de maison avec des têtes très, très très différentes les unes des autres et pourtant qui forment une sorte d'un seul oiseau.
Bah, moi aussi, j'aurais voulu voir l'état d'esprit ou la réaction de Frédéric Dumont au téléphone lorsque tu lui as lu des extraits de Marcel Hébert. Je dis ça parce que moi aussi, figure-toi, j'ai découvert Frédéric Dumont lorsque j'ai écouté un extrait d'une de ses lectures, dont plusieurs morceaux d'ailleurs se retrouvent dans ce recueil. C'est une pièce d'enregistrement qui se retrouve sur son site internet. C'est un poème lu pour le lancement du numéro 175 de la revue Estuaire. Ça a comme ouvert en fait, ça a éclairé la lecture de son plus récent recueil Chambre Minimum, Ma Chambre en un seul mot, puis on retrouve 13 parties dans le recueil. Est-ce que la plupart des poèmes publiés par Frédéric Dumont dans ce recueil sont des poèmes inédits puisqu'on retrouve certains extraits publiés ailleurs, en tout cas à l'oral?
Oui, c'est ça. En fait, c'est des poèmes inédits, mais ce sont pas toujours des vers ou des images inédites. Alors, il a dit, je pense, dans sa préface à Sauterelle d'Enjouet, Frédéric le dit, que pour lui, ou en fait, il le laisse entendre, que pour lui, écrire, c'est notamment travailler avec des jouets. Et il y a quelque chose de très matériel dans son rapport, dans son rapport à l'écriture. D'ailleurs, dans la préface, il raconte une scène où il imprime les poèmes de Marcel, il en fait des boulettes et il les met dans ses poches pour aller prendre une marche. Mm-hmm. Donc, oui, les poèmes sont inédits et en même temps, c'est comme si Frédéric avait ouvert son coffre à jouer, il avait vu des poèmes déjà faits et il les avait comme défaits en petits morceaux. Morceaux qui ont ensuite donné lieu à certains poèmes de Chambre Minimum. On peut donc retrouver notamment des textes parus dans l'Estuaire remaniés dans Chambre Minimum. Ils sont quand même assez différents. En fait, je crois que notamment il y en a un qui est passé de la prose au vers ou vice-versa. Ça fait beaucoup partie de ce que Frédéric faisait dans sa livre, qui était de se pousser à expérimenter des formes assez différentes les unes des autres.
Et d'ailleurs, j'ai vu un rapprochement aussi dans le travail de la forme que vous avez fait aux éditions Les Herbes Rouges, puisque la couverture de Marcel Hébert représente, on va dire, une cuisse de sauterelle, et celle de la couverture de Frédéric, elle, représente une oreille avec au creux de l'oreille une paire d'yeux, en fait, comme une espèce de petit espion, un petit buzz, un verre d'oreille, avais-je noté, qui se glisse tout au fond du conduit auditif. Qu'est-ce qui se glisse dans l'oreille? Qu'est-ce qui obsède tant le poète dans ce recueil? Quel est ce buzz qui se glisse au fond de son oreille?
J'aime bien cette interprétation avec un verre d'oreille parce que, vous savez, nous, les éditeurs de poésie, quand on adopte une image comme celle-là, on l'interprète pas nécessairement. En fait, c'est un dessin qui existait déjà. Dans le cas de la couverture de Chambre Minimum, c'est une œuvre de l'artiste montréalais Doug Understand, qui avait d'ailleurs aussi fait la couverture de la réédition de Volière l'année dernière, aussi aux Herbes Rouges. J'ai toujours imaginé comme une personne cachée dans sa propre oreille. Et cette idée de trou dans un trou ou d'un peu de mise en abîme qui ne se peut pas concrètement, elle est assez présente dans la poésie de Frédéric. Et une autre chose qui est présente, c'est le paradoxe observer l'extérieur et se cacher à l'intérieur. Donc, c'est un peu ce que je voyais dans cette image au moment où on a considéré de l'adopter pour la couverture. Puis ensuite, ben, la cuisse de sauterelle, c'est Vincent Giard, hein, c'est notre directeur artistique, donc c'est son propre dessin, lui qui fait les dessins pour toutes les couvertures de la collection Enthousiasme. Il a assurément un petit quelque chose en commun avec cet artiste Doug Understand, avec qui nous avons beaucoup travaillé aussi. Donc, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une... C'est pas des couvertures qu'on a préparées simultanément non plus. Hein, on les fait une par une. Donc, on se retrouve comme ça avec des aplats de couleurs, du noir et blanc et un dessin un peu simple. Mais je pense que j'espérais beaucoup, en fait, qu'on voit la parenté entre Chambre Minimum et Sauterelle d'Enjouet. Parce que ça répond à tellement de questions notamment des questions que tu m'as posées, Eric, depuis le début de l'entrevue. Est-ce que c'est encore pertinent de lire ses œuvres aujourd'hui? Puis là, on a une œuvre qui a été commencée en 72 et un livre qui a été écrit dans les trois dernières années. Je trouvais ça assez éloquent.
Juste pour finir, revenons sur le titre Chambre minimum, puisqu'il y a aussi une autre correspondance entre Marcel Hébert et Frédéric Dumont. Bah, ces histoires de chambres qu'on retrouve assez régulièrement dans les deux livres, dans les deux recueils. Alors, Chambre minimum, qu'est-ce que ça évoque, ce titre, pour finir?
Eh bien, ça évoque certainement cette sorte de pauvreté du vocabulaire qui donne lieu, en fait, qui attire l'attention sur les choses les plus communes. La chambre, tout le monde en a une. C'est notre lieu zéro. Souvent, le repère ultime où on dort, où on se cache, où on est soi-même. Alors, chambre minimum, c'est un peu ce refermement. Et en même temps, c'est un titre qui parle de langage parce que chambre minimum... Est-ce que ça se dit? Ça se dit pas, chambre minimum?
Peut-être pas, non. On dit une chambre à soi, mais chambre minimum, pas sûr.
Voilà. Alors, c'est un réduit. C'est un travail sur la réduction. Et ce passage, cette impossibilité de sortir aussi, ou ce besoin de se réfugier dans un intérieur clos.
Voilà, c'est toute une découverte à laquelle vous êtes conviés, chères auditrices et chers auditeurs, cet été ou ce printemps, avec la publication ou la republication de L'urine des forêts par Denis Vanier, paru en 2021, Nat par Philippe Haeck, paru en 2021, Sauterelle d'Anjouet par Marcel Hébert, paru en 2022, et Les lettres otages par José Yvon, paru en 2022 aux éditions Les Herbes Rouges, sans oublier Chambre minimum de Frédéric Dumont, paru en 2022 aux éditions Les Herbes Rouges. Merci infiniment, Roxane Desjardins, de nous avoir présenté à Mission Encre Noire ce festival de livres et d'autorices paru dans votre maison d'édition aux Herbes Rouges. Merci beaucoup et à très bientôt.
Encore une soirée où tu te demandes ce que tu vas faire, comment t'en es arrivé là, à dévisager ton miroir, te dire que t'aimes pas ce que tu vois, mais pourquoi t'en vouloir comme ça? Tu bois tout sans remords, comme si demain n'existait pas. T'es plus fort derrière tes lunettes noires la nuit, quand tu sors à l'eau des coins du bar. Ta vie lointaine soit, car tu n'oses pas, non tu n'oses pas, car tu n'oses pas. C'est con parce que toi t'es beau.
Toi t'es beau. Voilà qui marque un point final à Mission Encre Noire ce soir, le tome 34, le chapitre 386. J'ai eu le grand plaisir de recevoir Roxane Desjardins, éditrice aux Herbes Rouges, pour nous présenter les rééditions de L'Urine des Forêts par Denis Vanier, Nat par Philippe Haec, Sauterelle d'Anjouet par Marcel Hébert et Les Laides Otages par José Yvon, ainsi que la nouveauté Chambre Minimum par Frédéric Dumont. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là !